Marc-Antoine Pérouse de Monclos, bonjour.
Bonjour.
Dans le livre que vous avez publié, vous prenez le contre-pied de certaines idées reçues. Pour vous, ce que l'on qualifie de groupes djihadistes en Afrique ne font pas partie d'un mouvement plus global.
Disons que ce que je soutiens dans le livre essentiellement, c'est que les dynamiques locales sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus déterminantes pour comprendre l'émergence de ces insurrections que les interférences globales, qu'il s'agisse de références à des modèles transnationaux de type Al-Qaïda ou Daesh, ou qu'il s'agisse effectivement des connexions entre ces groupes. Ce qui est frappant en Afrique subsaharienne, c'est que ces groupes dits djihadistes n'ont pas commis d'attentats en Europe ou en Amérique, hein, ce qui quand même les distingue énormément de leurs équivalents arabes, dont ils diffèrent à bien des égards. Donc c'est un peu ça l'idée maîtresse du livre.
Donc il n'y a pas pour vous d'international djihadiste en Afrique, ou est-ce que c'est quand même lié à des groupes internationaux, mais c'est plus ancré localement? Est-ce qu'il y a quand même des liens?
Alors, il y a quelques liens individuels, il y a une guerre de la communication qui consiste effectivement à prêter allégeance tantôt à Al-Qaïda, tantôt à Daesh, enfin à l'État islamique. Et au-delà de ça, ces groupes ne sont pas des organisations implantées par Al-Qaïda ou Daesh. C'est bien les dynamiques locales qui ont vu l'émergence de ces groupes insurrectionnels dans des situations de vide politique en général, notamment dans le sud de la Somalie avec les Shebab, mais aussi dans le nord du Mali, dans une moindre mesure dans le nord-est du Nigeria où l'État était extrêmement peu présent. Donc c'est vraiment ces conditions-là qui sont déterminantes. Donc la cause n'est pas dans les liens de ces groupes qui sont en fait assez ténus. Vous n'avez pas de combattants qui viennent des banlieues parisiennes ou bruxelloises ou que sais-je encore, combattre avec Boko Haram ou avec ACMI, hein, dans le nord du Mali.
Si on prend alors ces trois groupes, par exemple, que vous prenez là, les Chebab, ACMI, Boko Haram, est-ce qu'il y a des liens entre ces groupes-là à l'intérieur de l'Afrique?
Il y a eu quelques contacts individuels, mais on ne voit pas de mouvement massif de fonds ou d'armes, on ne voit pas d'agenda politique commun entre ces groupes. C'est des agendas, des cibles à chaque fois quand même très locales. Alors quelquefois, elles touchent à des intérêts internationaux localement, hein, indéniablement. Mais on ne voit pas des combattants somalis par milliers déferler sur le Tchad ou aller dans le nord du Mali ou inversement des Touaregs ou des Kanouris qui iraient combattre dans la Corne de l'Afrique. Et on ne voit pas non plus de commandement central.
Ouais, ce qui est trompeur, en fait, c'est qu'il y a des éléments de langage commun, un mode d'action qui peut être commun aussi.
Tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est extrêmement trompeur, c'est que ces groupes font souvent référence aux mêmes valeurs, aux mêmes sourates du Coran, et emploient les mêmes termes pour se désigner. Et du coup, on a un peu l'impression que, du fait des homonymes, tous ces groupes, on pourrait les mettre dans le même sac. Et ça, c'est quand même très trompeur.
Une autre idée que vous démontez dans votre livre, c'est que ces groupes, finalement, ne sont pas religieux. En tout cas, la religion est une motivation secondaire, peut-être.
Je vais nuancer. L'idée que j'avance dans le livre, c'est qu'on surdétermine le rôle du religieux. Je dis pas que le religieux ne joue aucun rôle, parce qu'il donne une forme, il donne une contenance, il détermine les discours que portent ces groupes. En revanche, effectivement, quand on fait un peu de la sociologie des combattants, on se rend compte que leur engagement a peu à voir avec la religion. On a des études des Nations Unies, j'ai moi-même mené des entretiens avec une soixantaine de membres présumés de Boko Haram, et on a d'autres informations qui nous viennent du Cameroun, qui montrent que finalement, ce que disent ces djihadistes révèle d'autres facteurs beaucoup plus importants pour s'engager dans des mouvements de lutte armée, notamment la vengeance, le sentiment de persécution, la peur d'une arrestation arbitraire avec torture dans les prisons. Et tout ça pousse les jeunes musulmans africains à rejoindre ces groupes. C'est ça que dit le livre, en fait. C'est que le facteur religieux, on ne peut pas le négliger, il est là. Mais il ne faut pas surdéterminer l'importance qu'il a, parce qu'il y a une telle obsession sur ce phénomène que l'on appelle la radicalisation de l'islam, que ça détermine en fait les réponses aussi.
Et vous parliez des réponses apportées justement par la communauté internationale, et pour vous, ces réponses, cette lutte militaire est contre-productive ?
Telle qu'elle est menée, oui, parce qu'on est adossé à des, notamment les Français dans le nord du Mali, sont adossés à des armées qui commettent des exactions et qui du coup poussent des jeunes à rejoindre les groupes insurrectionnels. Alors, attention, ne faites pas de moi un anti-militariste forcené que je ne suis pas. Hein. Il y a eu des opérations militaires qui ont eu quelques succès, mais là je parle bien d'interventions militaires occidentales, qu'elles soient américaines ou françaises, adossées à des armées africaines extrêmement corrompues, peu performantes, qui par leurs dégâts entretiennent les conflits. Dans le cas du Nigeria, par exemple, les forces de sécurité tuent plus que Boko Haram. Donc il y a une vraie question à poser, qui ne signifie pas qu'il faudrait complètement arrêter les opérations militaires, mais indéniablement les améliorer. Il faut, dans ces groupes, utiliser à la fois de la carotte et du bâton. Justement, un des problèmes de concevoir ces groupes uniquement comme des groupes terroristes, c'est qu'on imagine qu'il n'y a rien à négocier avec eux, parce qu'ils refuseront tout le temps de négocier. Le biais terroriste conduit aussi à imaginer que seule la réponse violence militaire peut conduire à les écraser et à résoudre le conflit, alors qu'il peut y avoir aussi de la négociation.
Merci Marc-Antoine Pérouse de Monclos.